Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quelques mots très rapides avant de laisser la parole à Anne Bonnefoy qui va vous présenter le conférencier de ce soir. Donc c'est toujours un plaisir de vous accueillir à l'espace MEDES France dans le cadre de ce partenariat entre l'Université de Poitiers, plus spécifiquement les écoles doctorales du secteur SHES et l'espace MEDES France. Je dois tout d'abord excuser mes collègues directeurs d'école doctorale qui sont retenus ce soir pour la cérémonie de remise des diplômes de docteur, donc quelque chose qui ne vous concerne pas encore pour l'instant, qui va vous concerner dans quelques années. L'Université de Poitiers a décidé, et je pense que c'est vraiment une très bonne chose, d'instaurer une cérémonie de remise de grade de docteur. Donc il y a un côté un petit peu solennel, mais ça permet de redonner toutes ces lettres de noblesse à cette formation qui est dans le système universitaire français qui est un petit peu dévalorisé par rapport à d'autres formations. Donc c'est un côté symbolique, mais je pense que ça contribue assez fortement à revaloriser les formations, notamment au niveau du doctorat sur un établissement. Donc je dois excuser Cécile Tréfort et William Berthomière qui sont retenus donc à cette cérémonie de remise des grades. Je donne tout de suite la parole à Anne Bonnefoy pour la présentation de notre conférencier de ce soir.
Oui, bonsoir à tous, merci d'être là malgré ce grand froid mais qui n'est pas encore arrivé, donc on se réchauffe aussi à l'espace MEDES France. Donc je voulais remercier en effet les directeurs des écoles doctorales d'être toujours présents pour ce séminaire. On va présenter Marc Renneville, mais Marc est déjà venu 3 fois, donc dans l'espace MEDES France déjà, et je te remercie infiniment d'être toujours présent. Je sais que là tu viens d'un long voyage et tu sors de l'avion et tu arrives où ? À Poitiers. C'est formidable quand même. Donc Marc travaille particulièrement, enfin nous va donner une conférence sur la phrénologie, la tentation d'une science totale 1800-1850. Donc je vous passerai l'ouvrage. Je vous invite à le lire parce qu'en plus il se lit comme un roman. C'est vrai que c'est banalité de dire ça, mais franchement Marc il se lit avec grande facilité et c'est très très agréable. Donc tu travailles au centre Coiré aussi et tu en histoire des sciences et des techniques et tu es chargé d'études et de recherche à direction de l'administration pénitentiaire à Rouen. Voilà, donc j'ai distribué à nos amis la fiche que tu m'as demandé de donner sur Criminocorpus parce que tu es aussi directeur d'un site dont tu pourras nous parler. Enfin, je pense qu'ils ont toutes les informations sur le papier qui s'appelle Criminocorpus, qui est en lien d'ailleurs en principe aussi sur le site de l'espace MEDES France. Bonjour, je t'écoute, on t'écoute tous. Merci beaucoup encore Marc Renneville d'être avec nous ce soir.
Eh bien, merci effectivement à vous d'être présent, puis surtout aux collègues de m'avoir invité. C'est vrai que je viens toujours avec grand plaisir dans cet espace dédié à l'histoire des sciences, et finalement il n'y en a pas tant que ça non plus en France, donc d'allier à la fois recherche, en tout cas recherche, oui, recherche universitaire, et puis ouverture au public, c'est vraiment une perspective que je trouve très intéressante, et c'est vrai que c'est celle qu'on poursuit un petit peu sur le site web, donc pour lequel je fais entre guillemets un peu de publicité dans le bon sens du terme, donc Criminocorpus, mais j'en dirai pas plus puisqu'effectivement l'essentiel des informations est sur la petite page que vous avez. Voilà, non ça fonctionne. Donc on m'a demandé d'intervenir sur la phrénologie, donc le fait est que j'ai travaillé sur la phrénologie. Je n'y travaille plus beaucoup en fait pour l'instant, puisque j'avais produit un ouvrage sur ce thème en 2000, mais je compte me remettre, entre guillemets, à la phrénologie, notamment via l'étude de ces collections, parce que j'y ferai allusion, les phrénologistes se sont beaucoup appuyés sur une pratique de collection de crânes, de moulages et de bustes qu'ils ont confectionnés eux-mêmes, pour la plupart, et ces collections sont un peu dispersées en France, on n'a pas une visibilité très claire, et souvent elles sont associées à des manuscrits qui n'ont pas tous été recensés ou consultés, donc c'est une des pistes de recherche que je me propose de poursuivre dans les prochains mois ou voire les prochaines années. Alors cette phrénologie, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Phrénologie, ça veut dire tout simplement en fait science de l'esprit, et c'est une science qui a surtout, je dirais, entre guillemets, fonctionné au 19e siècle. C'est pour ça que j'avais proposé des dates correspondant à 1800-1850, ce qui est assez précis en fait pour la France, et qui correspond vraiment aux dates extrêmes de sa validité scientifique en France. mais on va le voir, en Grande-Bretagne, c'est un peu différent. Si on parlait de l'Espagne, ce serait différent aussi. Et la plus grande pérennité de la phrénologie, c'est probablement aux États-Unis, où on peut encore passer des diplômes de phrénologie jusque dans les années 1920. Et la dernière société savante phrénologique ferme ses portes en 1967, en Grande-Bretagne. Donc on peut dire qu'elle a eu quand même une durée de vie assez longue. Alors pour autant, en France, elle a quand même été reléguée au rang de fausse science, hein, pendant plus d'un siècle, même si depuis quelques années, elle fait l'objet d'une réévaluation, et je dirais une réévaluation polémique. C'est-à-dire que pour certains, elle serait vraiment le prototype de la science de l'homme rationnel, essentiellement parce qu'elle a cherché à asseoir la connaissance de l'homme sur l'exploration des fonctions du cerveau. Donc les tenants de cette perspective, notamment je pense à certains neurobiologistes comme Jean-Pierre Changeux, estiment que la phrénologie est la première science de l'homme, qu'ensuite les sciences de l'homme se sont fourvoyées dans la psychologie, la sociologie, et que grâce à la neurobiologie actuelle, la science de l'homme rationnel peut enfin peut-être advenir. Et puis pour les autres, ceux qui s'opposent à cette perspective, évidemment, la phrénologie est tout au contraire en fait une sorte d'anticipation justement du réductionnisme appauvrissant des sciences cognitives. Bon, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de prendre position dans ce débat, c'est plutôt de m'en frotter les mains, je dirais, en tant qu'historien, c'est-à-dire de dire que la phrénologie a donc une actualité, hein, puisqu'il y a un enjeu de lecture par rapport au présent, et puis que c'est un petit peu à l'aune de cette actualité et de cette fortune nouvelle que je voudrais l'exposer devant vous ce soir. Donc pour faire cela, on va faire en trois points assez classiques, je dirais. On va d'abord voir comment elle s'est mise en place, cette science de l'homme. Ensuite, combien ses applications furent multiples, et c'est peut-être un petit peu ce qui est l'originalité de cette science, qui se donne comme objet à la fois le comportement de l'homme, mais essentiellement aussi de l'homme en société, et donc quelque part, elle envisage de son rêve, c'est de construire une société à l'image de la phrénologie, c'est-à-dire que d'organiser tout rationnellement du point de vue de cette science. Et bon, mais bien sûr, elle n'a eu qu'un temps, hein, puisqu'il n'y a plus de phrénologie aujourd'hui, donc on verra ensuite la période de déclin, qui intervient, je dirais, assez rapidement en France, à partir des années 1840, on peut considérer qu'elle commence à avoir quelques problèmes. On va le voir d'ailleurs, c'est pas seulement en termes de légitimité scientifique, mais surtout en termes d'attaques qui ne viennent pas uniquement des scientifiques, mais aussi d'hommes de science qui sont porteurs d'une foi chrétienne qu'ils revendiquent comme étant un des aspects de leur science. Et donc, en plus, comme c'est une science qui a été aussi très, très caricaturée, qui est une science visuelle, donc je vais vous présenter quelques diapos avec pas mal d'illustrations ou de photographies. Donc le premier point, c'est naissance d'une science de l'homme. Donc, et on va voir que cette science, elle est liée à un homme essentiellement qui l'a fondée, qui s'appelle François-Joseph Gall. Donc là, vous en avez quatre représentations, plus ou moins fidèles évidemment, mais il y en a au moins une qui est assurément à peu près fidèle, c'est celle qui est en haut à droite, puisque c'est un moulage de Gall décédé. Donc on est à peu près sûr que c'est lui. Voilà, donc François-Joseph Gall, il a eu une formation de médecin, hein. il était d'origine italienne, établi en Allemagne, il a fait une partie de ses études à Vienne, et l'essentiel d'ailleurs de sa théorie a été élaboré dans la Vienne impériale de François II, et on va voir d'ailleurs que ça va lui poser quelques problèmes. Alors comment a-t-il découvert cette science, qu'il n'appelle pas d'ailleurs lui-même phrénologie, mais qu'il appelle physiologie ou organologie? Il a décrit de la façon suivante, et vous allez voir que la description qu'il en fait correspond en fait au canon de ce qu'est une bonne science à l'époque, c'est-à-dire essentiellement une science de l'observation. Donc probablement que s'il avait vécu à une autre époque, il l'aurait présenté autrement. Mais au XIXe siècle, en tout cas au début du XIXe siècle, une bonne science, c'est une science qui part d'une observation juste. Alors quelle est cette observation juste? Gall explique que quand il était à l'école, il avait des camarades qui étaient toujours beaucoup plus forts que lui en récitation, mais qui étaient en général bien plus faibles que lui en composition et en réflexion, ce qui était déjà un bon point de départ pour lui. Et il s'était demandé pourquoi. Et donc, à force d'observer ses camarades, il s'est aperçu qu'ils avaient l'arcade sourcilière légèrement proéminente. Et donc, il explique que ça lui avait permis d'en induire donc, que la mémoire verbale, la mémoire des mots, devait se situer probablement à cette place-là. Et que si la mémoire des mots se situait, pouvait être localisée du point de vue physique, peut-être qu'il devait en être de même d'autres talents. Et du coup, Gall a procédé par observation et a fini par déterminer un certain nombre de localisations, alors qu'il va décrire comme étant cérébrales. Mais il faut savoir qu'en fait, son idée est que les talents, les penchants, les facultés de chaque personne se situent toutes dans le cerveau, que le cerveau lui-même correspond à une pluralité d'organes, que ce n'est pas un organe, le cerveau, mais que c'est, le cerveau qui contient des localisations cérébrales. Cette méthode donc, de découverte des organes, il la pratique de la manière suivante, non pas sur la base de l'anatomie, et ça peut nous dérouter un tout petit peu d'un point de vue présentiste, mais il l'explique lui-même, en fait, quand on dissèque le cerveau. Il faut savoir que Gall est un très bon anatomiste et qu'il a d'ailleurs été reconnu de ses contemporains à l'unanimité sur ses talents d'anatomiste. Il avait notamment découvert, mis au point une nouvelle méthode de dissection du cerveau qui consistait non pas à le charcuter en tranches, mais à déplisser les circonvolutions et donc à maintenir l'organe entier et à en faire un certain nombre d'observations. Mais il expliquera lui-même de ces circonvolutions, on ne peut rien tirer directement. Et c'est donc plus par l'observation psychologique qu'il a obtenu. Qu'il a découvert, entre guillemets, c'est les localisations cérébrales qui lui paraissent pertinentes. Donc, sa méthode consiste à observer des personnes présentant des talents particuliers, hein, poètes, mathématiciens, philosophes, musiciens, acteurs, cuisiniers, mais aussi fous, voleurs et assassins. Donc, si ces personnes présentent un talent particulier, il essaie de tâter donc, leur crâne pour voir s'il n'y a pas éventuellement un développement particulier, une saillie d'un organe, ou au contraire d'ailleurs ce qu'il appelle les saillies les mêmes places, c'est-à-dire un trou qui correspondrait à l'absence de cet organe ou à un fort affaiblissement de cette faculté. Donc en pratiquant de la sorte, Gall va distinguer lui 27 localisations cérébrales, 27 organes, dont l'instinct de la propagation, l'amour de la progéniture, des enfants, l'attachement, l'amitié, l'instinct de la défense de soi-même, l'instinct de la propriété, l'instinct carnassier, le penchant au meurtre, la ruse, le sentiment de propriété, qui trop développé va donner le vol, l'orgueil, la circonspection, la mémoire des personnes, le sens du langage, le talent de la peinture, de la musique, etc. Alors vous avez ensuite des facultés intellectuelles et des qualités morales qui distinguent l'homme des animaux, sagacité comparative, esprit métaphysique, esprit caustique, talent poétique, bonté, faculté d'imiter, et puis bien sûr l'organe de la religion. On n'est jamais trop prudent. Donc, et d'après Gall, bien sûr, tous les peuples ont cet organe. Alors, je dis on n'est jamais trop prudent parce qu'en fait, la phrénologie, bien sûr, va être accusée de matérialisme très, 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 très vite. Et ça va être un reproche qui va lui être fatal, d'une certaine manière, puisqu'on va le voir tout à l'heure dans la part du déclin, dans les années 1840, c'est cette accusation de matérialisme qui va coûter le plus cher à la phrénologie, portée par des savants. Et en fait, on l'abandonnera en grande partie pour cette raison-là. Ce qui, en termes de méthode et d'histoire des sciences, notamment, est très intéressant, puisqu'on voit comment une théorie fausse peut être réfutée d'une certaine manière par des arguments qui sont tout aussi faux que la théorie. Enfin, ça, c'est pas nouveau, mais enfin, quand même, en termes de méthode, c'est pas inintéressant. Puisque, bien sûr, la phrénologie était réfutable dès le départ, puisqu'elle partait du postulat qu'on pouvait mettre en adéquation le relief crânien avec les organes du cerveau, et que ça marche pas, puisqu'il n'y a pas de correspondance entre la forme du crâne et la forme du cerveau en dessous, donc ça aurait dû suffire. Mais cette simple observation n'a pas porté au départ, en tout cas. Alors, la méthode de Gall, je l'ai déjà dit, elle procède essentiellement par observation. Ça, c'est assez important, parce que ça veut donc dire que Gall observe, mais les autres. Il ne s'observe pas lui-même, c'est-à-dire que son idée n'est pas du tout de partir dans la filière classique de l'introspection, c'est-à-dire mieux je me connais, mieux je vous connais vous, puisque nous sommes tous semblables. Mais Gall dit au contraire, la personne la plus difficile à connaître, c'est quand même moi-même. Et donc, il faut que j'aille le plus loin possible dans l'observation, dans les sujets à observer, pour pouvoir, par comparaison, arriver à un modèle. Et donc, les comparaisons qu'il fait, c'est avec des modèles les plus simples possibles, les animaux ou les enfants, et ensuite avec des personnes qui présentent des talents particuliers, Parce que comme il le dit d'ailleurs, en général, quand les personnes ont un talent très développé, il est bien rare qu'elles les aient tous très développés. Et donc, quand il recherche donc les talents chez une personne, il dit après, je cherche la contre-épreuve, c'est-à-dire si une personne a une partie du crâne légèrement développée, je suppose que la faculté qu'elle présente se trouve là, mais je vais chercher ensuite une personne qui ne l'a pas du tout, cette faculté, et s'il y a un creux, bon, bah, a priori, ça se confirme. Et comme il le dit, les génies sont rarement géniaux en tout, donc même un génie, et même surtout les génies, me servent de contre-exemple pour des facultés qu'ils n'auraient pas. Donc la méthode de Gall tient en 5 moyens, comme il a dit, pas la dissection, il la met de côté parce que, comme je dis, pour lui, c'est une méthode trop grossière, inapplicable en fait à la complexité du système nerveux. Et donc c'est plutôt l'induction et l'observation psychologique. C'est également les contre-épreuves, comme je l'ai dit. C'est également ensuite l'étude de la conformation particulière de la tête des individus. Alors au début, il faisait par palpation, puis il s'est très vite rendu compte qu'il n'avait pas la mémoire des reliefs, donc il a fait des moulages. Et puis ensuite, comme il le fera remarquer lui-même, les moulages c'est bien, mais les crânes c'est encore mieux. Donc il va accumuler comme ça, d'abord chez lui, puis ensuite dans un petit musée, à la fois des moulages de crânes et puis des crânes eux-mêmes. À savoir aussi que c'est pour l'anecdote, mais quand même, Gall avait dans son appartement de Vienne une volière, des chiens, des chats, tous les animaux possibles et imaginables, parce qu'il disait que ce qui comptait, c'était de pouvoir les observer vivants pour comprendre leur comportement. Et puis donc des collections de crânes d'hommes qui vont poser également quelques problèmes et parfois des questions qu'on n'appelle pas à l'époque éthiques, mais qui se poseront quand même comme ça lorsqu'il s'agira de récupérer des crânes de généraux ou d'hommes très haut placés. Et ça se fera en France. Par exemple, savoir que l'enterrement du général Lamarque, qui est décrit dans les œuvres de Victor Hugo, ben, cet enterrement-là, très peu de personnes le savent, mais il s'est fait sans la tête du général Lamarque, qui était parti chez les phrénologistes pour observation. Alors, l'enjeu de cette connaissance, donc, elle est à la fois évidemment scientifique, sociale et politique, hein, puisque la phrénologie se propose de donner une théorie générale des comportements et aussi une méthode diagnostique sûre qui est la cranioscopie. Donc vous voyez la François-Joseph Gall en barre présentée en train de tâter les bosses d'un crâne. Et cette méthode donc aboutit à des localisations. Donc là, vous avez d'ailleurs, si vous cherchez sur le web la phrénologie, vous trouverez quelques renseignements. Il y a de très bons sites, notamment d'un collègue anglais qui s'appelle John Van Weer, qui a fait un site sur la phrénologie. Mais vous trouverez aussi beaucoup de représentations comme ça, des porcelaines qui se vendent manifestement, puisqu'il y a pas mal de modèles. Et donc, qui sont des modèles de représentation des localisations cérébrales, bon, en anglais. Mais globalement, vous sachez que les instincts, les penchants, les communs aux animaux se trouvent derrière le crâne. Par exemple, le penchant à l'amour physique est le penchant numéro 1 est au niveau de la nuque. Et ensuite, quand vous montez, vous arrivez à des penchants qui sont partagés avec les animaux dits supérieurs, notamment l'instinct de propriété, qui trop développé donne le vol, ou l'instinct carnassier, qui trop développé va donner le penchant au meurtre. Et puis, les penchants les plus élevés, donc notamment... la circonspection ou la religion, le sens moral, se trouve ici. Et c'est assez intéressant de voir comment, là encore, cette science qui ne repose sur pas grand-chose de validé de nos jours ressemble quand même terriblement à des divisions tripartites des fonctions du cerveau, ce qu'on appelle, par exemple, la représentation de MacLean, du cerveau reptilien, mammalien, etc. Les phrénologistes savaient déjà ça, alors que on se demande sur quoi ça reposait, quoi. Ce savoir, cette science, évidemment, c'est une science qui est héritée aussi. François-Joseph Gall n'a pas tout inventé. Le principe de localisation cérébrale, par exemple, était déjà connu au XVIIIe siècle. C'est une théorie très controversée de son temps. C'est une théorie aussi qui est en concurrence avec d'autres, notamment... Là, vous avez trois représentations de théories concurrentes. Celle du trou occipital de Daubenton qui permet de commencer à avoir une idée de l'échelle des êtres selon la position du trou occipital. Une représentation aussi de l'angle facial de Camper, qui est Je voulais rappeler pour mémoire, parce que simplement, la phrénologie est très stricte dans ses principes, notamment avec François-Joseph Gall. Mais en fait, tous les disciples de la phrénologie vont faire des mixtes, si je puis dire, des mélanges. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la phrénologie, ils vont y ajouter un petit peu d'anglo-facial, et surtout, on va le voir aussi, beaucoup de physiognomonie. Ce mélange phrénologie-physiognomonie auquel Gall était totalement opposé, va assurer, d'une certaine manière, le succès de la phrénologie et ses développements populaires. Alors donc, la phrénologie, là, en haut à gauche, vous avez le masque mortuaire de Napoléon. Je ne développe pas la question du masque mortuaire de Napoléon, mais c'est un cas en lui-même, puisque Napoléon, donc, lorsqu'il est décédé à Sainte-Hélène, son moulage a été pris par son médecin, Antoine Marchi, mais il a pris que la face. Et revenu à Paris, c'était la mode de la phrénologie, il a vendu le moulage, mais il avait que la moitié, évidemment, des organes phrénologiques. Et donc, il y a eu toute une controverse sur comment reconstituer les organes de la face postérieure de Napoléon, qui disant qu'on pouvait le faire d'après les peintures, d'autres que c'était impossible. Et donc, on a beaucoup discuté sur le masque mortuaire de Napoléon du point de vue phrénologique, sachant que le point de vue de Napoléon sur la phrénologie, c'est que c'était des fadaises, comme les théories de Cagliostro et de Mesmer. Donc, la phrénologie, ce qui est important aussi, c'est qu'à travers ces organes fondamentaux, je vais y revenir là, elle est en contradiction complète, et donc a introduit une rupture totale avec la psychologie. Parce que la psychologie, ça existe déjà aussi au XVIIIe siècle, mais la psychologie, elle est en concurrence, bien sûr, c'est une psychologie très philosophique, elle est en concurrence avec des théories de philosophes qui ne sont pas d'accord entre eux, mais globalement, quand même, ça repose sur des catégories fondamentales de l'entendement sur lesquelles tous les philosophes sont d'accord, des catégories que sont l'attention, la faculté apperceptive, la mémoire, le jugement, l'imagination, et ce sont des catégories qui ne sont pas discutées en tant que catégories psychologiques fonctionnelles. Or, François-Joseph Gall dit que ces catégories sont purement métaphysiques et complètement abstraites. C'est-à-dire qu'il dit, par exemple, la mémoire, ça n'existe pas, la mémoire. Vous pouvez avoir la mémoire des mots, mais vous ne pouvez ne pas avoir la mémoire des chiffres. Vous pouvez avoir la mémoire des personnes, mais vous pouvez ne pas avoir la mémoire des lieux, etc. Donc, elle dit que les catégories classiques de l'entendement ne sont pas justes et que donc, ils font retourner à l'observation pour retrouver les catégories fondamentales des êtres. Et ces catégories fondamentales, donc, sont celles qu'il décrit dans les organes phrénologiques. Par exemple, l'instinct carnassier. Ça, c'est une catégorie fondamentale. L'instinct de la propriété, c'en est une autre. Et ce qui est aussi nouveau dans la phrénologie, et ce qui va lui poser quand même pas mal de problèmes, c'est qu'elle prétend être une science de l'homme, très bien, mais qu'elle donne une assise physiologique au concept très métaphysique, lui, mais ô combien opérationnel, notamment dans le droit pénal, de la liberté morale. C'est-à-dire la liberté que chaque individu a d'agir et de choisir une action et d'agir dans sa volonté libre, je dirais. Et ce que dit François-Joseph Gall, quelque part, et les phrénologistes, c'est que cette volonté libre, elle ne s'exerce que chez les individus sains et bien portants. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un relatif équilibre dans vos organes du cerveau pour que vous soyez libre de vos mouvements. Mais si vous avez une disproportion trop forte sur certains organes, eh bien vous êtes déterminé plus ou moins à commettre des actions et vous aurez beaucoup plus de mal à résister que quelqu'un qui a un équilibre physiologique à peu près correct. Et cette idée, bien sûr, au-delà de la phrénologie, toute la psychologie pathologique va s'y engouffrer, hein, sur l'idée qu'une bonne étude de psychologie repose sur les anomalies en fait, de l'entendement. Bon, donc, ce raisonnement, comme je le disais, il le heurte de plein fouet, notamment le code pénal français. Bon, le code pénal, à l'époque de la phrénologie, c'est le code pénal de 1810, qui repose sur la liberté des individus d'agir. Et s'ils ne sont pas libres, c'est qu'ils sont fous. Hein. C'est l'article 64 du code pénal qui dit qu'il n'y a ni crime ni délit lorsqu'un individu est en état de démence au moment des faits. Or, la phrénologie, quelque part, a dit c'est pas si simple. Selon l'état physiologique de l'individu, il est plus ou moins libre d'agir. Et donc, plus ou moins peut-être poussé à commettre des actions répréhensibles du point de vue légal. Encore que pour la phrénologie, il n'y ait pas d'organe de l'illégalité, si vous voulez. Par exemple, l'instinct carnassier, s'il est très développé, vous pouvez trouver des métiers qui vous permettent de l'exercer tranquillement. Un charcutier, bourreau ou général d'empire, comme dira François-Jacques Gall. Donc, il n'y a pas de boss du crime en soi. Il y a éventuellement un penchant qui pousse à, mais après, vous pouvez l'exercer de manière légale ou illégale. C'est d'ailleurs ce que diront aussi les anthropologues, les criminologues, je dirais, de la fin du XIXe siècle, comme Lombroso, qu'on a beaucoup caricaturé. Mais Lombroso, il avait aussi une lecture assez, parfois, assez intéressante de ces cas. Il disait qu'il y avait des gens qui étaient poussés au vol aussi, mais dès lors qu'ils trouvaient un métier qui leur permettait de l'exercer légalement. Et il citait notamment certaines positions sociales très élevées. Il n'y a pas de problème, ils se feront jamais attraper et ça ira très bien pour eux. Alors donc, la phrénologie est liée également, c'est un point à souligner, à un moment dans l'histoire des sciences de l'homme, en tout cas dans l'histoire culturelle du XIXe siècle, en France, qu'on appelle la philanthropie, c'est-à-dire un grand mouvement, on peut dire généreux, envers les déshérités du genre humain, que sont les malades, les handicapés, on ne les appelle pas encore comme ça, les handicapés des sens, les aveugles, les sourds-muets, les prisonniers, et vraiment avec un désir d'améliorer leurs conditions sociales, d'améliorer leurs conditions de détention quand ils sont détenus, je pense aux prisonniers. Et la phrénologie sert un peu de support aussi à toutes ces théories. Alors, une lecture justement un peu rapide, celle que je citais tout à l'heure en introduction, consisterait à dire que c'était un réductionnisme biologique. Donc, qui dit réductionnisme de nos jours dit parfois aussi théorie un peu réactionnaire ou au moins conservatrice. Dans l'occurrence, on est là dans une conjoncture tout à fait différente où le réductionnisme, entre guillemets, il faut y mettre beaucoup de guillemets, parce qu'il faudrait nuancer, est lié à coup sûr à des positions sociales et politiques plutôt progressistes. Les phrénologistes, par exemple, sont pour l'éducation des classes populaires. Et certes, elles ont les organes supérieurs peu développés, c'est bien pour ça qu'il faut les éduquer. Donc, il faut bien comprendre aussi que le cerveau, le crâne, pour eux, n'est pas un objet fixe à la naissance qui ne bouge plus. C'est au contraire un organe pour partie malléable, pour partie qui peut s'accroître, comme le dira la Cassagne à la fin du XIXe siècle, jusqu'à 50 ans. Bon, alors, je ne sais pas exactement. Les phrénologistes ne donnaient pas d'âge précis pour le développement du cerveau, d'autant qu'ils ajoutaient que même si la boîte crânienne ne peut plus, à un moment donné, et ossifiée, ne peut plus grandir, on peut toujours fortifier les organes, entre guillemets, de l'intérieur. Donc, ça, c'est un point. L'autre point aussi, c'est qu'ils ne sont pas interventionnistes physiquement sur le crâne. C'est-à-dire que la phrénologie n'est pas une science qui prône, par exemple, la trépanation. Pas du tout. Il y a de très rares exemples de propositions comme ça, mais elles sont plutôt dans l'imaginaire, notamment à travers des quelques fictions, mais tout de même assez rares. Donc la phrénologie, sur ces bases-là, va être quand même une science très controversée. Et dès ses premières représentations publiques, puisque Gall donne des conférences publiques à Vienne, il va être très rapidement prié d'aller donner ses conférences ailleurs, parce que précisément, il y a un argument que je n'ai pas pu vérifier, qui consiste à dire qu'il en prenait un peu à son aise avec son jeune public féminin. Mais en fait, la réalité, c'est que François-Joseph Gall inquiétait sérieusement les autorités politiques de l'époque, donc l'empereur François-Joseph, que Gall avait en plus des soutiens dans la police de l'Empire de l'époque, et donc on lui a dit ça suffit comme ça, vous êtes interdit de conférence. Donc à partir de ce moment-là, il quitte Vienne, il fait une tournée en Europe, qui se passe d'ailleurs plutôt bien, notamment en Allemagne, Goethe va se rendre à plusieurs de ses conférences, en étant très intéressé, et Gall arrive à Paris fin 1807. Très vite, en fait, il va chercher là aussi une assise scientifique, notamment en déposant un mémoire à l'Institut, mémoire qui va être évalué entre autres par Cuvier et Pinel. Ce mémoire a une partie de l'anatomie du cerveau et une partie qui parle très peu en fait, de l'organologie. Et Cuvier va dire que, de toute façon, on ne peut faire aucun rapport entre la physiologie et la psychologie. Et c'est une position qui va être, qui va lui rester, d'ailleurs, et je pense qu'il en a été intimement convaincu, puisque l'un de ses principaux élèves, qui s'appelle Pierre Flourens, donnera le coup d'arrêt décisif à la phrénologie 30 ans plus tard, en 1842. J'y reviendrai. Mais en tout cas, la phrénologie, on s'en moque beaucoup aussi dès 1808. Je ne sais plus si j'ai une représentation là. Non, mais il y a des poésies, il y a des chansons. Enfin, tout Paris s'enflamme. Il y a même au carnaval de 1808, on se gausse beaucoup de la crânologie. Mais Gall a des soutiens très puissants également, notamment Metternich, Decazes, le médecin François Brousset, Corvisart, qui a été médecin de l'empereur. Et donc, je dirais, les positions s'équilibrent à peu près. C'est surtout sous la Restauration, en fait, que la phrénologie va se développer en France. Elle va trouver des défenseurs dans l'opposition libérale. Et plus encore au moment de la monarchie de Juillet, c'est-à-dire à partir de 1830 à peu près, hein, 1830-1831. Il y a plusieurs personnes qui vont vraiment être à la fois proches de la monarchie de Juillet et grands partisans de la phrénologie. Je pense à François Brousset, une fois de plus, côté médical, et puis côté philanthrope, à Benjamin Appert, hein, qui est secrétaire de la reine et phrénologiste. Alors Benjamin Appert, il est... Vu sa position, il est aussi proche du bourreau Sanson, l'exécuteur des hautes œuvres, qui lui donne d'ailleurs des redingotes de condamné à mort parce qu'il les collectionne. Il est proche de François Vidocq, qui l'emmène dans les faubourgs parisiens pour voir un peu la plèbe du tout Paris. Et puis Benjamin Appert, l'autre côté, c'est son côté mondain, où il organise des dîners dans lesquels on croise Balzac, Alexandre Dumas, Charles Fourier, Victor Considérant, Casimir Brousset, donc le fils de François, Vidocq et Sanson. Franz Liszt, qui, lorsqu'il passe à Paris, passe dans les salons de Benjamin Appert, et bien sûr, on lui fait un moulage, non pas de ses mains, hein, mais de sa tête. Alors, le mouvement phrénologique donc, prend forme dans le premier tiers du XIXe siècle, avec des différentes voies, et notamment celle de l'enseignement. Il y a pas mal d'enseignements publics qui sont donnés en France, avec les trois objets là, que j'ai rassemblés en une photographie, des moulages de cerveau, des bustes, enfin en tout cas des moulages de tête, l'idéal étant qu'on puisse raser la chevelure, parce qu'évidemment c'est pas facile de tâter les bosses si la chevelure reste présente. En même temps, quand vous avez affaire à Franz Liszt, c'est difficile de lui demander de se faire raser le crâne. Donc en général, les sujets rasés, sont, lorsqu'ils sont vivants, sont uniquement les fous et les criminels, parce qu'il n'y a pas besoin de leur demander. Mais quand ce sont des personnages célèbres, c'est qu'ils sont décédés. Et donc, dans ce mouvement, je dirais, de chasse au crâne, il y a des témoignages et des pièces qui montrent que, dès le décès de la personne, on prévient les phrénologistes pour qu'ils viennent prendre soit le moulage, soit éventuellement la tête complète quand ils sont très bien vus. Cette approche, c'est une approche clinique quand même aussi. Il faut savoir que on est dans la grande période de révolution de la médecine qui va devenir donc la médecine contemporaine, donc anatomopathologique, mais aussi enseignement clinique, c'est-à-dire au chevet des malades. Et là, en l'occurrence, en gros, les pièces les plus importantes sont les pièces anatomiques ou les sujets vivants. À droite, vous avez le personnage qui a donné l'origine de l'expression « la bosse des maths ». Il s'appelait Vito Manguiamel et c'était un génie, un prodige mathématique, comme on en a connu régulièrement d'ailleurs depuis cette époque où on s'y intéressait. Et donc c'était un personnage qui était capable de résoudre des opérations, des racines cubiques, etc., de tête, et très rapidement. Et ça, cette qualité, par contre, elle est avérée, elle n'est pas discutable. Ce qui était plus discutable, évidemment, c'est qu'on puisse la relier à une éventuelle bosse des mathématiques, ce qui a été fortement discuté entre phrénologistes et non-phrénologistes. Alors le mouvement, il impulse aussi une grande volonté de faire des collections. Hein, donc, ce sont des collections dans lesquelles on ne mesure pas encore précisément, par exemple le diamètre, etc. Les instruments de mesure précis viendront plutôt de la controverse, en fait. Hein. Donc c'est à travers cette controverse qu'on va préciser les opérations de mesure. Mais donc, ce que vous voyez là, la planche de gauche, c'est une prise de vue des collections du Musée de l'Homme. Au milieu, c'est des collections du Musée d'Aix-en-Provence. À droite, c'est encore des collections du Musée de l'Homme. Mais en fait, il y a eu des collections et des musées phrénologiques. Il y en a eu à Paris, il y en a eu à Rouen, à Bruxelles et probablement dans d'autres villes de province mais il n'est pas facile de retrouver ces collections, essentiellement parce qu'elles sont peu valorisées, comme la phrénologie reste quand même associée à l'idée d'une science fausse et d'un moment un peu minoré de l'histoire des sciences, elle reste souvent plutôt dans des cartons, dans des caves, et on les sort rarement, ces bustes. Il fut même un temps où, je ne vous dirai pas où, Niki, mais c'est un témoignage à peu près sûr que j'ai là-dessus, qu'on s'amusait à prendre les bustes et à les dégommer avec des pierres pour les oublier, quoi. Voilà. Donc il en reste quand même quelques-uns, et donc, comme l'a dit les historiens, voilà. On est là aussi pour ça. Alors, la chasse au crâne, puisque je l'appelle un peu comme ça, parce que ça a été vraiment une chasse qui les a emmenés très loin, elle a abouti à ces collections, mais ces collections, parfois, on est allé les chercher très loin. Le meilleur exemple qu'on puisse donner est l'expédition scientifique de Dumont-d'Urville. Dumont-d'Urville a fait plusieurs expéditions, mais la dernière, celle durant laquelle il va trouver la Terre Adélie, donc cette portion de l'Antarctique auquel il a donné le nom de sa prénom de sa femme, qui a eu lieu donc en 1837-1840. Il l'a faite avec un certain nombre d'instructions scientifiques, comme on avait à chaque fois qu'on devait partir en expédition. Et parmi ces instructions, il y avait des instructions qui étaient relatives à la connaissance des peuples d'Océanie et donc des instructions d'anthropologie. Et pour faire aboutir ces instructions, Dumont-d'Urville a embauché un phrénologiste, qui était le mouleur de la Société phrénologique de Paris, qui travaillait d'ailleurs également pour la Faculté de médecine de Paris. Et donc il faut imaginer cet Alexandre Dumoutier, puisque tel était son nom, embarqué sur l'Astrolabe. C'était il y avait deux navires, l'Astrolabe en mémoire du premier Astrolabe, et puis la Zélée. Et donc embarqué sur l'Astrolabe avec des tonneaux de plâtre et des instruments de mesure d'ailleurs, pour prendre la mesure des Patagons, des Océaniens, etc. Et alors lui, en plus, Dumoutier, essayait autant que possible de leur faire raser la chevelure, sachant que les cheveux étaient tabous chez la plupart des peuples océaniens, ça n'était pas question d'y toucher. Vous imaginez les tractations qui font partie aussi du métier scientifique de savants pour obtenir des Océaniens une coopération scientifique à l'œuvre des phrénologistes. Coopération qu'il a d'ailleurs obtenue en grande partie, et ce qu'on imagine aussi plus difficilement de nos jours, c'est que lorsque les bustes sont revenus en France, donc en 1840, on est au tout début de la photographie, donc c'est pas encore la culture de la photographie en tant que représentation exacte est encore très peu développée, et les bustes que présente Dumoutier frappent l'imagination justement par leur exactitude, et beaucoup de témoignages disent qu'on a l'impression, grâce à ces moulages, que les Océaniens sont venus parmi nous. Alors, l'accumulation de ces pièces fait que Dumoutier, donc essentiellement grâce à Dumoutier, on va ouvrir un musée de phrénologie à Paris. L'inauguration aura lieu le 15 janvier 1836, au cours d'une séance publique extraordinaire de la Société phrénologique de Paris, durant laquelle on va présenter l'autopsie phrénologique d'un assassin qui a défrayé la chronique à l'époque, qui s'appelait Lassner. Alors Lassner, je pense que vous connaissez tous son histoire, mais je vais juste rappeler en deux mots. C'est un assassin qui n'est pas célèbre par ses crimes, classiques, mais plus par son attitude au procès, puisqu'il va refuser de prendre un avocat, il va se défendre tout seul, et en gros, il va ridiculiser la justice en s'auto-accusant de toute façon des crimes qu'il a commis, en déclarant d'autres, d'ailleurs, que la justice a oublié, et en expliquant qu'il va vers la guillotine sans peur, ni haine, puisque la guillotine est sa fiancée. Lassner est un poète, entre guillemets raté, parce qu'il n'a pas réussi à vivre de ses poèmes. Et donc, il est arrivé au crime d'une certaine manière pour obtenir la célébrité, ce qui, effectivement, va être ce résultat. Il va publier ses mémoires. Et de son vivant, enfin, en tout cas, du temps de son procès, il va être un détenu célèbre. Rappelez aussi que peut-être que les prisons à l'époque sont à la fois des passoires, parce qu'on peut rentrer et parfois sortir et revenir. Enfin, ça, vous n'imaginez pas la différence entre les prisons du 19e siècle et celles de nos jours. Mais en tout cas, c'est des lieux quasiment aussi où, ça par contre, c'est pas complètement, complètement différent, où on est incarcéré en fonction de sa condition sociale. C'est-à-dire, si vous avez de l'argent, vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, vous êtes dans le quartier des pailleux. Si vous avez de l'argent, vous êtes à la pistole. Ce qu'on appelle peut-être maintenant quelque chose comme les quartiers VIP. Alors, disons que la SNER, si vous voulez, est un peu dans le quartier VIP de l'époque. Et donc, il peut recevoir du monde, et il reçoit d'ailleurs pas mal de visites. Et il a reçu la visite des phrénologistes. Et pour vous montrer combien cette science était aussi une science pratique, pour vous montrer aussi comment on faisait les moulages, je vais vous proposer de visionner ensemble les 3-4 minutes du début du film La SNER, qui avait été donc réalisé par Francis Giraud, un film qui a fait un four, manifestement, mais qui est injustement, je trouve, parce que du point de vue historique, il est très proche des mémoires de La SNER qui ont été publiées, et il était très, très, très documenté. Georges Conchon, notamment, qui était le scénariste, avait fait un très bon travail de reconstitution de la phrénologie. Et là, vous allez voir, donc, alors c'est une extraction d'une vieille copie VHS, donc je vous prie de bien vouloir être indulgent quant à la qualité de l'image, mais vous allez voir quand même l'essentiel. C'est Daniel Auteuil qui joue le rôle de La SNER. Il est assez proche de l'attitude que La SNER devait avoir par rapport à la phrénologie. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais vous lancer ça, si ça va bien fonctionner. Alors, il manque le son. Je pense que ça vient de moi. Ouais, mais je vais pas le faire alors. Voilà, c'est tout bête.
Messieurs, entrez donc. Au fait, à qui ai-je l'honneur? Professeur Tonnelier de l'Académie de médecine, titulaire de la chaire de phrénologie à l'Hôtel Dieu.
En effet, ce n'est pas rien.
Et voilà le docteur Briançon qui me prête son concours dans mes recherches.
Quelle idée! Si jeune et déjà phrénologiste. On ne m'avait pas prévenu, mais la phrénologie, bien sûr que je devais m'y attendre. Et messieurs, je vous comprends. Il n'était que temps que vous veniez me tâter le crâne. Un peu plus et vous me trouviez, si je puis dire, la tête sous le bras. Cela dit, pardon de devoir vous presser, mais j'ai beaucoup à faire aujourd'hui. S'il vous plaît, allons-y. D'ailleurs, je suis tranquille que vous ne serez pas long à me découvrir les caractéristiques d'un assassin comme on en fait peu. Sachant d'avance. Sentez-vous au moins la bosse du crime?
Oh, ce serait trop simple.
Cherchez bien.
C'est qu'il n'existe pas, à proprement parler, de protubérance annonçant une nature portée à tuer. Non, nous devons nous contenter d'un ensemble de signes concordants. Mais parfois contradictoires. Ainsi, vous me paraissez présenter non seulement une certaine forme d'intelligence.
Merci.
Mais assez de bienveillance.
Tiens donc.
Voyons, voyons, Jean.
Très, monsieur.
Donc, c'est vrai que quand j'évoque la phrénologie, j'aime bien présenter cet extrait-là parce que ça me permet de rappeler un point qui me semble fondamental et qui est aussi un point de méthode en histoire, que cette science, même si elle est fausse, elle repose, comme toute autre science, sur des techniques, des savoir-faire, des pratiques qui étaient inhérentes à la théorisation. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement des élucubrations de papier, c'était aussi des personnes qui se déplaçaient dans des lieux, les asiles, les prisons, les bagnes notamment, et qui allaient chercher les éléments matériels de preuve de leur savoir. Alors, ce qui reste évidemment en partie un mystère que je n'ai pas complètement élucidé, c'est comment ils arrivaient malgré tout à y croire. Enfin, ça, comment le fait de faire ces choses-là permettait de continuer à penser que la phrénologie pouvait être une science qui fonctionne. Donc c'est un cas du point de vue des questions d'épistémologie qui reste intéressant. De toute façon, les cas d'erreur sont, me semble-t-il, plus intéressants que les cas où les gens trouvent la solution. Donc voilà pour Lassner. Lassner, bon, comme vous le savez, a été guillotiné. Hein, donc les phrénologistes ont en plus récupéré ensuite son crâne. Alors la deuxième partie, je vais peut-être aller plus vite sur les autres parties, puisque je l'ai déjà d'ailleurs en grande, pour une large part développé, cette idée que la phrénologie a des applications multiples et variées. Alors, multiples, notamment du point de vue de l'éducation des enfants. Hein. Il y a cette idée que plus tôt on dépiste les talents et les penchants des personnes, et plus tôt on peut leur appliquer un enseignement lié justement à ces talents et penchants. Alors, on ne parle pas d'école maternelle à l'époque, de dépistage, mais enfin, on parle quand même de si possible, de tâter les bosses le plus tôt possible et d'orienter les individus, non pas pour les sanctionner, mais tout au contraire, pour les aider justement à développer les quelques facultés natives qu'ils ont déjà en bonne part. Mais c'est aussi un savoir qui va très vite se mêler, notamment avec les disciples, à la physiognomonie. Alors, la physiognomonie, ce n'est pas vraiment une science, par contre, c'est plutôt un savoir un peu transversal, qui a été ravivé depuis la Renaissance en Occident, mais surtout depuis le XVIIIe siècle avec les théories notamment de Lavater. Et la plupart des disciples de phrénologie vont essayer de faire un mixte, je dirais, entre à la fois les bosses du crâne et puis les représentations de la physiognomonie. Et la phrénologie donc, va être étudiée, pour vous donner quand même une idée des chiffres, hein, de sa diffusion, dans les années 30. Vous avez une société savante parisienne, la Société phrénologique de Paris, qui comprend plus de 200 médecins qui adhèrent à la Société phrénologique. Son enseignement est attesté à Paris, à Toulon, à Épinal, à Saint-Brieuc. J'en ai retrouvé des traces aussi, bien sûr, dans les villes de Bagne, donc Brest, Toulon, Rochefort, également à Bordeaux, Montpellier, Nancy, Metz et Rouen, et probablement ailleurs, mais bon, après, le problème, c'est de retrouver les traces. En Grande-Bretagne, elle s'est énormément développée suite au premier disciple de Gall, qui était Spurzheim, qui, comme de bien entendu, ils se sont fâchés tous les deux, et donc Spurzheim est parti en Grande-Bretagne, notamment en appliquant la phrénologie et la physiognomonie, et avec une idée de plus aussi que ne développait pas trop Gall, qui était l'éducation par la phrénologie, justement, avec l'idée que la phrénologie pouvait faire beaucoup pour modifier les individus. Et puis, il va y avoir des disciples aussi en Grande-Bretagne, notamment les frères Combes. Mais pour vous donner une idée, Georges Combes a publié en 1828 un ouvrage de vulgarisation. Et en 1860, les ventes de cet ouvrage culminaient à 100 000 exemplaires, soit deux fois plus que l'origine des espèces à ses débuts. Donc, c'est dire que la phrénologie, là encore, comme elle n'a pas eu la réussite de la théorie de Darwin, on a tendance à sous-estimer sa diffusion, mais elle a largement séduit le public des européens et nord-américains, même si elle a subi énormément d'opposition et réticence, notamment de la part des églises, qu'elles soient catholiques, évangéliques ou anglicanes. Donc la phrénologie, on la retrouve en Scandinavie, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis. Aux États-Unis, elle a des applications les plus diverses qui ont beaucoup intéressé les sociologues des sciences, notamment... je dirais, ça va des phrénologistes ambulants qui prédisent l'avenir au concept de la maison octogonale d'Orson Fowler à la fin du 19e siècle. Alors, je ne veux pas développer pourquoi la maison octogonale était en lien avec la phrénologie, mais il y avait de même surtout des cabinets d'orientation professionnelle ou de conseils matrimoniaux. Pour vous donner une idée, il y avait la maison mère qui était Fowler's en Wales, qui avait établi ses quartiers à Manhattan, dans le quartier des affaires. Et elle était, elle était souvent consultée lorsqu'on voulait recruter des personnes importantes dans les entreprises. Et puis il y a également des dérives, l'hétérologie, la phrénogéologie, la géonomie, l'andronymie, le magnéto-physionomico-craniologie aux États-Unis. En France, il n'y a pas beaucoup de variétés comme ça. Il y en a une quand même qui avait été étudiée en son temps par Pierre Tuillier, qui a beaucoup compté dans ma formation, et il avait repéré la phréniogénie. Et la phréniogénie, c'était quoi ? C'était une technique de reproduction humaine qui permettait d'engendrer infailliblement des génies en reposant donc sur c'était un mix de phrénologie et de photographie. Donc la technique imaginée par Bernard Moulin, qui était, paraît-il, le fruit de 20 ans de réflexion et de recherche, permettait donc d'engendrer des enfants qui possédaient les caractères et les attitudes que les géniteurs avaient programmés au moment de la conception. Donc, alors que c'était quoi la technique, je vous la donne quand même, ici, en exclusivité. En fait, il suffisait de penser très fortement, ou encore mieux, d'exercer, au moment critique, la faculté qu'on souhaitait transmettre pour qu'elle soit effectivement transmise. Donc, telle personne qui voulait un musicien devait fredonner un air pendant le combat amoureux, je cite l'auteur. Tel autre désirant produire un poète devait s'électriser l'organe correspondant en récitant quelques vers. Et ainsi du reste, pour engendrer un mathématicien, il était bon de s'astreindre à des résolutions de problèmes. Pour faire un philosophe, on devait propulser son esprit, évidemment, dans les limbes de la métaphysique. Et bon, s'il me semble, moi, que l'engendrement d'un être avec un penchant très développé à l'amour physique ne devait pas requérir d'habileté particulière, peut-être qu'il devait y avoir des problèmes, par contre, si on voulait se distinguer en produisant un peintre talentueux ou un éminent architecte. Bon, enfin, en tout cas, l'auteur donnait la recette, c'était déjà beaucoup. Il revenait à chacun de l'accommoder à son goût. Et il a eu d'ailleurs, Bernard Moulin, paraît-il, des personnes qui ont fait des tentatives, avec des résultats, paraît-il, discutables d'ailleurs. Mais si évidemment, sa théorie n'a guère dépassé le stade de l'expérimental, ça nous rappelle quand même un imaginaire médical eugénique bien avant que Galton invente le terme. Alors, on va passer maintenant, j'ai déjà un peu développé ça, donc j'en reparle pas. On va passer au temps du déclin quand même. Donc, pour garder un petit moment de discussion. Donc, le déclin en France, il se manifeste à partir des années 1840. Il y a d'abord un phénomène de génération évident qui va emporter les phrénologistes chevronnés comme Bailly de Blois, que je ne vais pas citer, mais qui était quelqu'un d'important, mais surtout des noms plus connus comme François Brousset, qui décède en 1839, Jules Dumont-d'Urville en 1842 dans un accident de train. Et au même moment, vous avez l'opposition à la phrénologie qui reprend l'offensive, et notamment quelqu'un qui est très bien placé dans le milieu scientifique, qui est Pierre Flourens, donc qui est à la fois un élève de Cuvier, et qui occupe surtout la position de secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, ce qui n'est pas rien. Et il écrit en 1842 un ouvrage contre la phrénologie, dans lequel il explique que la phrénologie rejette l'unité de l'intelligence, puisqu'elle dit que il y a des localisations cérébrales possibles, donc pour lui c'est une erreur psychologique. Vous vous rendez donc bien, c'est une erreur psychologique et non pas physiologique. Elle dit que la division du cerveau en aires fonctionnelles est avérée, et pour lui c'est une erreur physiologique, parce que lorsqu'on retire une partie du cerveau d'un animal, il perd tout. C'est-à-dire que Flourens fait des expériences en prétendant prouver que il suffit de faire des ablations partielles pour que l'animal perde toutes les facultés, alors que les phrénologistes prétendent l'inverse, bien sûr. Et puis enfin, il dit qu'elle fonde, et c'est, je pense, l'accusation la plus grave, la raison et la volonté sur un état physiologique, et c'est une erreur morale. Et c'est cette idée d'erreur morale et de contradiction avec les principes de la morale chrétienne qui sera également mise en avant par Philippe Buchez lorsqu'il donnera ses cours à la faculté de médecine de Paris dans les mêmes années. Il dira aux étudiants de médecine, c'est pas la peine de faire des expériences pour vérifier si la phrénologie fonctionne ou pas, elle contredit la morale chrétienne, ça suffit pour ne pas s'en occuper. Alors, en même temps, la phrénologie qui se voulait généraliste, puisque c'est à la fois une technique de critique d'art, par exemple. Gall disait, la Vénus de Botticelli, elle a un crâne d'idiote. Donc elle est peut-être jolie, mais comme il aurait pu faire un crâne un peu plus gros quand même. Bon, ouais. Un exemple parmi d'autres, elle prétendait aussi avoir une théorie des races, j'ai rappelé l'expédition en Océanie, mais en même temps sa théorie des races n'était pas une théorie forcément hiérarchisante, et discriminante. Alors que les théories raciales qui se mettent en place à l'époque, notamment autour de la Société d'ethnologie de Paris, vont être des théories beaucoup plus discriminantes. Donc la phrénologie qui veut être une science généraliste arrive à un moment où les sciences de l'homme justement commencent à se spécialiser. Et tout le processus du 19e siècle est une spécialisation qui va aboutir à, vous le savez, aux grandes ruptures de la fin du 19e avec des personnes comme Durkheim qui disent que la sociologie n'est pas de la psychologie, ne se fonde pas sur une psychologie. La psychologie, de son côté, dira qu'elle est une physiologie particulière qui n'est pas une philosophie, qui ne peut pas se nourrir de philosophie, etc. Et la phrénologie, donc, qui prétendait embrasser toutes ces sciences à la fois, évidemment, va être un peu en porte-à-faux. En plus, elle tend au milieu du 19e siècle à faire des concessions à la philosophie dominante de l'époque, qui est l'éclectisme de Victor Cousin, ce qui est une erreur de positionnement majeure, évidemment, puisque les Renan, les Taine et les Ribot, eux, vont construire la psychologie sur d'autres bases. Alors, bien sûr, la phrénologie va être également beaucoup moquée. Bon, on en a eu un aperçu dans la perspective de Lassner, mais ce sera vraiment un travail assez amusant aussi que de relever toutes les caricatures qu'il y a eu de la phrénologie. Là, vous avez deux représentations de Cham. Alors, c'est pas forcément très lisible. Le chameau, c'est la bosse des voyages, et le corset, c'est la bosse de la dissimulation. Quant au petit crevet de Pépin, on le voit pas très bien, mais il y a plein de localisations avec la bosse du calcul, qui est évidemment 2 plus 2 égale 6, etc. Bon. Donc elle est raillée, on s'en moque dès le départ, mais en même temps la phrénologie va persister, notamment sous une forme de pratique populaire de divination, et ce très longtemps. Et là vous avez justement une photographie qui représente un petit cabinet de consultation dans l'entre-deux-guerres. Bon, vous allez me dire, c'est en Amérique. Oui, bon, d'accord, mais enfin quand même, c'est pas une raison. Les Américains ne sont pas moins rationnels que les Français, mais ça veut simplement dire que comme il y a eu un décalage dans la diffusion, puisque la diffusion de la phrénologie arrive aux États-Unis en 1830 seulement, au moment où elle a son apogée en France, et elle va y persister plus longtemps. Voilà. Alors, j'en arrive à la conclusion, pardon, que je vais proposer en deux temps. Premièrement, donc la phrénologie comme anticipation d'une certaine manière de la criminologie, puis deuxièmement, quelle place on peut y donner dans une histoire du corps médicalisé. Alors, la phrénologie comme anticipation de la criminologie, c'est pas moi qui l'invente, c'est les criminologues eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est eux qui revendiquent cette origine, avec toujours une polémique qui renvoie à ce que je disais en introduction, c'est-à-dire, est-ce que la phrénologie est une anticipation de la bonne criminologie rationnelle, ou au contraire, est-ce qu'il y a une anticipation des pires dérives de la criminologie telle qu'elle ne devrait pas se faire ? Voilà. En sachant qu'il y a des partisans des deux côtés. Bon. Mais en tout cas, il y a une certitude, c'est que la phrénologie est bien la première théorie à prétention scientifique à s'interroger au XIXe siècle sur ce que c'est qu'un criminel, qu'est-ce que c'est que le passage à l'acte, et est-ce qu'on ne peut pas déterminer les signes visibles du danger, ou de ce qu'on appellera plus tard l'état dangereux ou la dangerosité. Elle est aussi une science qui va investir les lieux de détention, les asiles, les prisons et les bagnes, et va les construire comme espace d'enquête savante, ce qui n'est pas le cas au XVIIIe siècle. Donc la phrénologie, bien sûr, elle va avoir aussi une postérité sous la forme de la craniologie, c'est-à-dire que les crânes de criminels, on ne va pas arrêter de les collectionner quand on va laisser tomber la phrénologie, ça va durer encore très longtemps, au moins jusqu'à la fin du XIXe siècle. Mais en tant qu'objet de collection, mais en tant qu'objet de savoir, de réflexion, le XXe siècle aura sa part. Et puis également, elle va, comme je le disais, elle va être revendiquée par les criminologues, mais pas seulement du XXe siècle, mais aussi dès la fin du XIXe, les criminologues, entre guillemets, parce qu'ils ne s'intitulent pas encore comme ça, voient bien l'intérêt de s'inscrire dans une filiation avec la phrénologie. Donc là, vous avez une représentation au milieu d'Alexandre Lacassagne, donc qui n'est pas un criminel, mais un criminologue. Et par contre, à gauche, vous avez j'ai fait un petit morphing pour rappeler simplement la théorie du criminel et de Lombroso. Et Lombroso faisait partie de ces hommes qui revendiquaient une filiation avec François-Joseph Gall. Donc, vous connaissez probablement la théorie du criminel né, que je ne développe pas. Mais cette anthropologie criminelle, donc de la fin du XIXe siècle, elle poursuit effectivement que l'on revendique ou pas cette affiliation à la phrénologie, parce qu'il y en a d'autres aussi qui la moquent, hein, comme je pense notamment à Léonce Manouvrier, qui parlera avec dédain de la bosse de l'assassinat. Elle poursuit bien les mêmes objectifs de science appliquée, hein, et non pas de savoir abstrait qui n'aurait pas d'usage en société, en tant que l'anthropologie criminelle, comme la phrénologie, prétend être une science de l'identification, de l'observation et de la prévention. Si possible, c'est le grand rêve de la criminologie, c'est Minority Report, hein, c'est-à-dire qu'on arrête les individus avant même qu'ils aient commis le premier délit. Ça, c'est le grand rêve de la criminologie. Qui hérisse un petit peu d'ailleurs l'éthique quand même de la plupart des juristes, hein, puisque pour eux on ne peut punir ou prendre en charge que s'il y a un jugement, et on peut y avoir un jugement que s'il y a effectivement un délit. Bon, donc il y a vraiment un choc comme ça des représentations qui est très important et qui date du 19e siècle. Et puis sur l'idée aussi d'une prise en charge appropriée, c'est-à-dire que si on a affaire à quelqu'un qui a un penchant irrésistible, à quoi bon l'envoyer en prison, ça sert à rien, il vaut mieux une prise en charge thérapeutique. Voilà. Donc pour la criminologie, je dirais que l'affaire est assez claire. Il y a une filiation assez évidente. Et il y a une filiation aussi dans les imaginaires, hein, parce que l'histoire des sciences, ce n'est pas seulement l'histoire de... Enfin, en tout cas, pour un certain nombre de collègues, et je partage complètement cette perspective, ce n'est pas seulement l'histoire des théories savantes dans les académies, mais c'est aussi l'histoire des représentations collectives de ces mêmes représentations savantes. Et on pourrait... si on prenait le temps, montrer combien la phrénologie, à travers cette idée que le cerveau anormal aboutit à des comportements anormaux, a eu sa part dans la construction de l'imaginaire cinématographique des criminels, notamment dans le cinéma fantastique. Pardon. Là, vous avez deux photogrammes qui sont tirés de Frankenstein, de James Whale, en 1931, sauf erreur. Et dans ce film, qui s'écarte d'ailleurs du Frankenstein de Mary Shelley, il y a bien une idée d'étiologie du monstre comme commettant un crime à un moment donné, parce que malheureusement, le cerveau qu'on est allé chercher dans l'amphithéâtre, qui était un cerveau sain, le bocal a été cassé, et l'aide d'ailleurs un peu abrutie qui va prendre le cerveau, reprend un autre cerveau, mais d'un cerveau anormal qui est en fait un cerveau d'un criminel, qui est donc une sorte d'explication du passage à l'acte ensuite du monstre. Voilà pour la criminologie. Donc, à l'origine de la notion de dangerosité, à l'origine de la notion qu'il vaut mieux punir les personnes pour ce qu'elles sont que pour ce qu'elles ont fait, c'est-à-dire en fonction de leur capacité éventuellement à récidiver. Et maintenant, la place de la phrénologie dans l'histoire du corps médicalisé. Eh bien, la phrénologie, d'abord, elle va accompagner, au moins dans la première moitié du 19e siècle, l'ascension du narcissisme et la cranioscopie va être pendant plusieurs décennies une technique d'auto-analyse psychologique. C'est-à-dire que les romanciers témoignent d'ailleurs de ces usages, notamment avec Balzac, hein, qui prend la phrénologie, je dirais, au pied de la lettre, puisqu'il la prend pour un langage de réalité, avant d'en faire un emploi satirique. Oui ? Bon. En prie. Ensuite, donc, elle va devenir un peu critique avec Alfred de Vigny, qui va dépeindre un Stello désabusé qui décrit longuement sa maladie au docteur Noir en termes de phrénologie. Puis bien sûr, Bouvard et Pécuchet, hein, qui vont s'essayer aussi à la palpation des crânes avec plus ou moins de bonheur. Le deuxième point, c'est que pour la phrénologie, les déterminations du sujet sont lisibles sur le corps, ce qui semble annoncer les théories qui vont suivre, comme la théorie des dégénérescences humaines de Morel, l'anthropologie criminelle de Lombroso, ou même la notion de reconnaissance des types professionnels à la fin du XIXe siècle, et puis la persistance de la morphopsychologie ou de la raciologie au XXe siècle. Donc toutes ces modalités sont intéressantes et importantes, surtout parce qu'elles ont parfois permis de remettre en cause l'idée d'un droit similaire pour tous les individus, parce que les différences physiques exprimeraient des différences de nature. Le troisième point, c'est qu'elle a fortement contribué à la déstabilisation du sujet juridique né des codifications de la Révolution française. C'était l'idée du primat du libre arbitre sur la condition physique des individus. Et puis, du point de vue de la méthode, qui est une question qui est liée à la précédente, la phrénologie, donc, comme j'ai dit, donne le primat du visible sur l'invisible, de l'observation distante à l'introspection, et elle participe en cela à l'instauration d'une nouvelle culture du visible, puisque la connaissance de l'homme, de ses potentialités et de ses limites, passe par les collections de crânes, les signes palpables suivant l'expression des phrénologistes, les discussions sur des pièces, des instruments de mesure, plus que par des polémiques métaphysiques ou des appels à la conscience religieuse. Et il y a là un double refus qui ouvre deux voies d'avenir. Premièrement, celui, le refus de l'introspection, qui met à distance une méthode qui sera reprise par la psychologie dite scientifique, et puis le refus de conformer la science à une morale donnée de l'extérieur, hein, qui est un refus très important, qui mène évidemment au scientisme d'une certaine manière, et qui en ce sens va être repris par des personnes que j'ai déjà citées, comme Jean-Pierre Changeux, en disant que cette mise à distance de la morale devrait être la base de toute science digne de ce nom. Donc, et c'est en ce sens-là donc, que la phrénologie, c'est le quatrième point, est une anticipation de la science rationnelle telle qu'elle devrait science de l'homme telle qu'elle devrait pratiquer nos jours, c'est-à-dire par l'étude du cerveau. Et puis enfin, si elle nous renvoie à un monde de pathologies aujourd'hui disparues, les phrénologistes ont beaucoup discuté sur les hydrocéphales, les microcéphales et les déformations pathologiques du crâne, elle participe aussi, bien sûr, à l'histoire d'un corps imaginaire, sinon fantasmé. Et elle nous dit donc tout ce que cette théorie savante du corps doivent à des représentations que l'on serait tenté d'exclure du champ des vérités légitimes et donc de l'histoire des sciences. Gall lui-même aimait à rappeler que sa doctrine des localisations cérébrales était déjà présente dans les écrits des pères de l'Église, et Lombroso, plus tard, faisait un raisonnement un peu similaire en disant tout ce que sa science devait à la lecture de Shakespeare. Alors, on pourrait bien sûr prendre ces affirmations comme autant d'éléments, je dirais, à charge pour exclure cette théorie de l'histoire disciplinée des sciences, mais on peut aussi y trouver autant de motifs, il me semble, pour pratiquer une histoire indisciplinée des sciences dans laquelle un énoncé savant, vaudrait autant, justement, du point de vue des sources, qu'une représentation populaire de cette même science. Voilà, je vous remercie.
Merci Marc, la phrénologie est donc enfin définie, parce qu'on parle de phrénologie en général sans savoir de quoi on parle. Donc je te remercie infiniment et aussi de nous avoir donné, comme je dis d'habitude lors de ces conférences, une leçon de méthode, à savoir que les sciences, qu'on peut faire une histoire des sciences fausses, tu l'as bien démontré, et qu'il y a aussi à partir d'une science fausse d'autres sciences qui peuvent naître, et d'autres regards donnés aussi par différentes disciplines. Donc tu as parlé de la criminologie, je sais que tu t'intéresses énormément à ces sujets, puisque tu es venu chez nous aussi dans des journées d'études qu'on a organisées sur ces sujets. Et je me demandais justement comment passer de la phrénologie. Toi, tu es passé de la phrénologie justement à l'étude de la criminologie. Donc tu as un peu répondu, tu fais partie des personnages peut-être qui auraient intéressé aussi nos savants par rapport, si tu veux, à la manière dont on perçoit des disciplines, dans la manière dont on s'y implique. Et voilà, donc merci beaucoup pour cette belle conférence. J'espère qu'il y aura des questions dans la salle. Tu as parlé de la littérature. Comment les littéraires s'en sont emparés? Ou est-ce que tu as parlé de Shakespeare avant en effet que la phrénologie existe? Est-ce que cette science qui ne portait peut-être pas ce nom-là à l'époque est visible dans la littérature avant le 19e siècle ou il y a vraiment une c'est vraiment non, cohabite. Non, Zola, les naturalistes l'ont récupéré entre guillemets.
Non, Balzac.
Non, Balzac.
Balzac, lui, c'est phrénologie et physiognomonie comme savoir de vérité. C'est-à-dire que lorsqu'il l'utilise dans la description de ses personnages, c'est une époque où la phrénologie est encore une science légitime. Donc, ça donne un effet de véridiction au personnage. Par contre, quand on en parle à la fin du XIXe siècle, c'est plutôt pour s'en moquer et donc pour ridiculiser les personnages.
Est-ce que ça a servi au recrutement dans des entreprises?
Oui, c'est ce que je disais, aux États-Unis, oui. Oui. En France, je n'ai pas de traces de ça, mais aux États-Unis, c'est très clair. Oui. Oui. Et dans les plus grandes entreprises dynamiques de Manhattan, fin 19e, début 20e siècle. Oui.
Au niveau des dates, la cohabitation aux États-Unis entre la phrénologie et puis tout ce qui va devenir la psychologie expérimentale, il y a un chevauchement temporel beaucoup plus important que ce qu'il y a eu en Europe. Donc,
ouais.
Comment s'est passé aux États-Unis sur ces deux
points? Je pense que la phrénologie a connu deux phases, un peu comme en Europe, c'est-à-dire une phase où elle était très présente dans les milieux savants, puis ensuite une phase où elle était plutôt une pratique. Mais du temps où elle était dans les milieux savants, c'est-à-dire jusqu'aux années 1850-60, il y a eu des cas célèbres, notamment le cas de Phineas Gage, qui avait reçu une barre de fer dans le... Bon, bah, il a été... La première description est décrite en termes phrénologiques. Donc il y a...
Tu peux raconter l'histoire qui est assez extraordinaire.
Oui, bah, c'est l'histoire en fait d'un homme qui a eu une grande partie de son cerveau enlevé, endommagé à la suite d'un accident très grave. Il s'est reçu, sauf erreur, une barre de chemin de fer dans le crâne, donc. Et son comportement a complètement changé. Et donc on l'a pris comme exemple, justement... comme cas d'études intéressants où on avait une ablation, puisqu'on n'osait pas les pratiquer encore à l'époque directement, une ablation accidentelle du cerveau qui permettait d'observer le changement de comportement. Quoi. Et alors il y a eu quelques phrénologistes pour... la première description, je crois, est faite en termes de perte des organes, d'un certain nombre d'organes phrénologiques. C'était l'époque donc, à la fois de ces cas accidentels qu'on prenait comme sujet d'étude et puis les cas... extraordinaire, comme j'ai dit, les calculateurs prodiges. Il y en a eu quelques-uns aussi aux États-Unis qui ont été pris comme sujet au moment de la phrénologie.
Les étudiants ne sont pas bavards ce soir. Enfin, bon. Enfin, ils sont bavards, mais peut-être pas. Vous savez ce que c'est que la physiognomonie, nos amis étudiants? Je pense qu'ils ne savent pas.
J'y retourne, alors, peut-être. Je ne sais plus c'était quel diapo. Ça devait être vers le début, je crois. Hop. Non, c'était avant.
C'est après.
Après ?
Oui.
Donc, vous voyez,
Non, là, c'est après.
Tu crois ? Je crois que c'était avant.
C'est le bras.
Oui, mais oui, c'est tiré de la bataire, ça.
Oui, là.
Oui, donc la physiognomonie, c'est la science de la connaissance des visages, qui est, science. J'aime pas trop parler de science parce que par contre, là, ça a toujours été admis que c'était quand même un savoir transversal, c'est-à-dire une connaissance qui était aux limites de la science, mais qui n'était pas vraiment établie en tant que science avec des canons réels. Mais par contre, la perspective de recherche était la suivante. Elle s'inscrivait dans la recherche en fait, des rapports, des liens entre le physique et le moral, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire les liens entre le physique et le psychologique, si vous voulez, pour parler en termes contemporains. Et l'idée de base était qu'on essaie de faire correspondre on essaie de chercher deux choses. D'une part, la ressemblance des traits fixes du visage avec des traits fixes qu'on retrouverait chez les animaux. Et on en induisait donc une parenté entre le comportement de la personne et le comportement de l'animal, sachant qu'on reposait, toute étude reposait sur une supposition d'un comportement animal qu'on avait très peu développé, puisque l'éthologie n'existait pas encore vraiment en tant que science. Et la deuxième idée, c'était que les expressions du visage ne mentaient pas lorsqu'on était dans des états de passion, notamment donc la colère, la jalousie, la haine, la joie ou au contraire le chagrin, et que donc il y avait une... Alors ça s'appelle plutôt, je crois, la pathognomonie, la science des passions, la reconnaissance des passions à travers le visage. Et donc voilà, c'était très développé au 19e siècle, et beaucoup de phrénologistes ont essayé de combiner les deux solutions dans une sorte de synthèse.
Merci.
Et ça a donné au 20e siècle la morphopsychologie, hein, et qui a été utilisé aussi pour certains recrutements.
Oui. Oui, vous avez présenté des images de collection de crânes. Est-ce que c'est un mode de stockage ou est-ce qu'il y a un mode de présentation spécifique aux collections de crânes? Une scénographie quoi, qui opère à des fins didactiques.
Alors, il n'y a plus de scénographie maintenant, puisque c'est essentiellement des collections de conservation. Elles ne sont plus présentées au public. À l'époque, elles étaient mises en scène effectivement en fonction des organes phrénologiques. C'est-à-dire que vous, vous vous promeniez dans le musée avec une progression dans les organes.
On en voit au musée de la Marine de Rochefort qui a été ouvert. Là, on voit des crânes de, justement de condamnés. On voit bien que ça a un autre intérêt. Que vraiment. Mais je pense qu'ils sont très panés, donc peut-être que ce ne sont pas des...
Ce ne
sont pas des intérêts chronologiques, si je puis dire.
Il y a peut-être eu des expériences à Rochefort, mais
la médecine.
A priori, très pané.
Le musée de médecine navale.
Ouais. Par contre, j'ai fait une allusion quand même au rêve d'une possibilité de trépanation. C'était dans un petit ouvrage d'une personne d'ailleurs qui est le grand-père des frères Michelin. Donc, il y a eu quelqu'un qui s'intéresse à la phrénologie dans la dynastie des Michelin. Il était d'ailleurs fondateur de la manufacture de caoutchouc à Clermont-Ferrand, qui a été donc ensuite devenue l'entreprise qu'on connaît. Mais lui, il s'intéressait beaucoup à ces affaires de phrénologie. Il avait publié sous un pseudonyme une petite fiction, mais dans une librairie médicale, donc il pensait bien que ça ferait illusion. Et il décrivait dans un château reculé des Pyrénées. Bon, là, on est en plein pur style du roman gothique typique du premier tiers du 19e. Le fait qu'un phrénologiste avait découvert justement le moyen d'éduquer les enfants par la méthode des tuyaux, il appelait ça la solénopédie. Et donc, il avait récupéré comme ça, je crois, 5 ou 6 gamins. Qui étaient de toute façon voués à une vie minable puisqu'ils avaient été abandonnés par leurs parents. Donc, d'une certaine manière, ils s'arrogeaient la possibilité de faire des expériences dessus. Et ils partaient du point de vue antisensualiste, c'est-à-dire qu'ils les avaient bâillonnés, ils les avaient rendus aveugles, ils cachaient les yeux aussi, et ils les éduquaient uniquement en faisant des trous au niveau des organes qu'ils souhaitaient développer, en mettant du phosphore dedans pour développer, ou faire une mixture à base de phosphore, pour fortifier les penchants. Et il disait que ça marchait très bien, etc., parce qu'il avait déjà essayé sur les animaux. Et il avait comme ça... alors, je crois que le portier du château, c'était un ours. Celui qui apportait la nourriture, c'était un aigle, etc. Il avait dressé quand même pas mal d'animaux comme ça, grâce à l'éducation par les tuyaux. Et il espérait bien arriver à faire la même chose avec un homme, avec les hommes. Et donc, il essayait sur les enfants. C'était une fiction. Mais c'était une fiction intéressante quand même, parce que... vous savez, l'imaginaire technique précède toujours les réalisations.
À défaut de grands débats publics, est-ce que vous avez trouvé des traces de débats dans des instances scientifiques ou dans des salons où se retrouvaient des hommes de science ?
Oui, bien sûr, il y a eu des débats. Bon, d'abord, ce premier mémoire à l'Institut a fait l'objet d'un rapport qui a été discuté d'ailleurs par Gall et Spurzheim. Il y a eu des débats à l'Académie des sciences, parce que Broussaille a été à un moment donné. Il y a eu des débats aussi à l'Académie des sciences morales et politiques. Enfin, à l'Académie de médecine, pardon, et à l'Académie des sciences morales et politiques, puisque ça rentrait dans la section de psychologie. Il y a eu de nombreux débats dans la communauté médicale à travers les périodiques. La Gazette médicale de Paris, par exemple, était farouchement anti-phrénologique, mais il y avait d'autres revues qui étaient beaucoup plus ouvertes à la phrénologie. Et puis, il y a eu des débats, même, on retrouve ces débats au niveau politique, parce que la phrénologie, comme disait un collègue anglo-saxon, Roger Cooter, a servi un peu, en gros, de parapluie scientifique à des réformes sociales, et notamment aussi à des réformes pénales. Donc on la trouve soit discutée en tant que science, valide ou pas, dans les milieux scientifiques, mais aussi en tant que science capable d'asseoir des positions de réforme dans le domaine politique. Donc beaucoup de débats, oui, beaucoup. Ben oui. Non, mais un exemple.
Réforme, oui.
Ah oui, pour l'abolition de la peine de mort. Un des plus grands partisans de l'abolition de la peine, enfin les plus grands partisans de l'abolition de la peine de mort à l'époque sont Charles Lucas et Victor Hugo. Et Victor Hugo cite indirectement la phrénologie, notamment lorsqu'il dit que la douce loi du Christ entrera dans les prisons lorsque les médecins s'occuperont des. Lorsqu'on verra enfin le crime comme étant une maladie, et là, très clairement, il pense aux phrénologistes. Et puis Charles Lucas, on l'a oublié parce que Charles Lucas est un personnage valorisé de l'histoire pénitentiaire, mais dans ses ouvrages contre la peine de mort, il cite très clairement la phrénologie comme étant justement une démonstration de l'inutilité de la peine de mort dans ces cas où le penchant pousserait à commettre des crimes.
Moi, j'aimerais savoir ce que vous entendez par l'homme total, l'expression homme total, à quoi renvoie-t-elle dans la phénoménologie?
Oui, c'est science totale. Oui, là, c'est le diaporama qui a été fait il y a 2 minutes. T'en as pop, regardez.
D'accord.
J'enlève. Non, c'est science totale dans cette idée qu'elle fait une transition, en fait, en gros, entre les sciences de l'encyclopédie et puis d'accord. les sciences très spécialisées du 19e siècle. D'accord. C'est un dernier savoir à prétendre avoir une vision totale de l'homme et à pouvoir embrasser toutes les possibilités à la fois de description de l'homme et de réforme qui pourra en découler.
D'accord. Comme l'expression avait été utilisée par Karl Marx, donc je pensais qu'il y avait un rapport entre l'homme total chez Marx.
Alors, non, c'est pas complètement un lapsus parce que Proudhon s'intéressait à la phrénologie et Proudhon disait bien que la propriété c'était le vol et ça participait d'une identité complète en fait. De cet organe qui, lorsqu'il est très peu développé, fait que vous donnez tout. Lorsqu'il est normalement développé, fait que vous êtes un bon bourgeois du 19e qui fait du commerce. Et lorsqu'il est très développé, fait que vous accumulez à la fois votre bien et celui de l'autre d'une manière pathologique et compulsive. Dans ce cas-là, ça fait de vous un kleptomane. Donc la propriété, c'est le vol. Ça veut dire que la propriété, c'est la même chose que le vol, c'est le même organe phrénologique.
D'accord.
Bonjour, vous avez parlé tout à l'heure d'une expédition faite en Océanie et on avait rapporté des crânes de peuples qui, je suppose, à l'époque, devaient être considérés comme inférieurs au peuple européen. Est-ce que des études ont été faites sur ces crânes et est-ce que ils ont, par la phrénologie, été considérés... est-ce qu'on a remarqué des caractéristiques spécifiques de ces peuples qui n'étaient pas européens, justement?
Alors, c'est une très bonne question parce que c'est un vaste chantier donc, qui est ouvert d'ailleurs par des collègues australiens qui travaillent là-dessus. Parce que l'expédition du Mont d'Urville, notamment via Dumoutier, avait pour objectif notamment de découvrir l'origine des différentes races qui avaient peuplé l'Océanie. Pour ce qu'il en est de la phrénologie, en fait, sauf erreur, Dumoutier n'a pas rapporté de crâne, il n'a rapporté que des bustes, donc des moulages qu'il a fait in vivo sur place. Et la position de Dumoutier est, me semble-t-il, très singulière, parce que j'ai travaillé son journal de bord, et il est plus épaté par la beauté des océaniennes et des patagones. Non, mais c'est pas une plaisanterie, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'empathie pour ces peuples-là, manifestement, à part dans les îles Enoukaïva ou quelque chose comme ça. Mais je prends l'exemple de la Patagonie. Pourtant, il se fait voler son craniomètre parce qu'il avait un instrument, puis il y a un barbarien de Patagone qui lui pique le truc. Il ne s'en plaint pas du tout. Et apparemment aussi, il y a eu des dissensions au niveau de l'équipage parce qu'il y avait un autre médecin qui faisait un peu d'anthropologie. Et Dumoutier était plutôt en empathie avec les Océaniens, donc il les jugeait absolument pas comme des peuples inférieurs. Et je prenais l'exemple, mais ce n'était pas pour plaisanter, notamment de la beauté des femmes qu'il comparait à celle des Européennes. Il n'avait rien à envier à la beauté des Européennes, et donc qui montrait qu'il avait quand même un certain regard d'équité. Et au retour, lorsqu'il s'agit de rédiger par contre les résultats de l'expédition scientifique, pour une raison que j'ai du mal à déterminer, Dumoutier ne le fait pas. Et probablement qu'il était malade ou quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à sa place, un certain Blanchard. Et lui est bien dans l'optique du reste de l'équipage. Il faut savoir que donc en 42, Dumont d'Urville, qui était le chef de l'expédition et donc le chef de la rédaction des comptes rendus de ce voyage, décède. Et donc il était partisan de la phrénologie. Et donc la phrénologie n'est plus très bien vue. Dumoutier laisse tomber l'écriture. C'est repris par Blanchard, qui lui rentre dans le moule de la raciologie et de la raciologie discriminante. Et donc il parle peu de phrénologie. Et il explique bien que les Océaniens sont un peuple inférieur. Oui. Mais c'est assez controversé parce que Dumoutier, je pense, n'était pas... Il y a peut-être une ou deux mauvaises rencontres qu'il a faites, et là, il a dû considérer quand même que ces gens étaient inférieurs. Je sais qu'il faudrait qu'on reprenne les textes au plus près, parce que notamment Martin Stone, qui a pas mal étudié la phrénologie aussi, lui est vraiment dans l'idée que la phrénologie était très discriminante. Je suis un peu plus nuancé que lui. Je pense que ça tient beaucoup aux personnes. Enfin, ça tient aussi aux personnes et aux rencontres qu'elles ont faites.
Vous avez parlé de la raciologie au XXe siècle. Est-ce que les théoriciens raciaux de la période du Troisième Reich se sont appuyés sur la phrénologie peut-être en opérant une déviance pour exposer les théories qu'on peut connaître.
Ouais. Non, pas du tout, en fait, parce que la phrénologie n'était plus valide à l'époque dans le champ scientifique, donc ils se sont basés sur d'autres raciologies, si je puis dire, plutôt sur les travaux de Gobineau, par exemple, sur la notion de race aryenne, donc des travaux qui étaient plus récents. Non, la phrénologie, ça ne les a pas vraiment intéressés directement. Les craniologies étaient différentes, si on peut dire. Il y avait eu beaucoup d'autres travaux sur les études de crâne.
On te reverra pour les collections, puisque tu nous as annoncé que tu allais travailler sur les collections de...
Ben, si je trouve des choses, peut-être.
Il va falloir que tu te promènes dans tous les musées. Est-ce qu'il y a des musées... Là, tu as montré quelques... Tu as nommé quelques musées, mais je pense qu'il y a des trouvailles à faire.
Sûrement,
ouais. Oui. En Europe, dans quel pays, en fait, on n'a pas étudié la phrénologie? Absolument pas, complètement exclu.
Eh bien, on l'a très peu étudié, notamment en Belgique. Et, au moment de la création de la Belgique, donc en 1830, le mouvement phrénologique est très important. Il y a un musée de phrénologie qui est créé à Bruxelles, notamment. Et il se trouve que les Belges sont très en avance sur la criminologie française au début du XXe siècle. Donc, il y a peut-être une filiation.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Marc Renneville. Merci à toi. Et puis je vous dis à l'année prochaine, chers amis, bonne fête, puisqu'on se revoit le 12 janvier ou avant si vous le voulez. Au revoir.